Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, le féminisme est un sport de combat. Bonjour Camille Froide-Vaumétry.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Reims, Champagne-Ardennes. Vous avez publié chez Gallimard en 2015 « La révolution du féminin » et l'an dernier chez Philosophie Magazine Éditeur « Le corps des femmes, la bataille de l'intime ». Or, depuis le 5 novembre, les hommes peuvent s'arrêter de travailler. Leur niveau de salaire moyen leur permet d'être payé autant qu'une femme sur toute une année. Si l'écart se resserre progressivement, les différences de salaire persistent. La bataille du travail, une des batailles du féminisme, n'est pas encore gagnée. La semaine aura été marquée par une autre actualité. Le témoignage de l'actrice Adèle Haenel contre le réalisateur Christophe Ruggia. Elle l'accuse d'attouchement et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était une jeune adolescente. Mais elle renonce à porter plainte, considérant que la justice n'écoute pas suffisamment les victimes. Or, ces deux moments illustrent les deux grands combats du féminisme. Celui pour l'égalité des droits économiques, sociaux et politiques. Et celui pour le droit à disposer de son corps. Le fait que ces deux thématiques reviennent dans l'actualité démontre, s'il en était besoin, que ces batailles sont encore à mener. Alors le féminisme est un sport de combat, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Camille Froide-Vaumétry. Je disais en vous présentant que vous êtes professeur de sciences politiques, en quoi le féminisme intéresse la science politique ?
Parce que le féminisme est un combat politique, hein, c'est le titre de votre émission, fort bien choisi. Le féminisme, c'est disons l'histoire d'une lutte, celle pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est une lutte qui a pris une diversité de combats, puisque les thèmes qui sont concernés par cette problématique de l'égalité sont très divers, et pour tout dire, concernent à peu près tous les domaines de l'existence.
On va voir au cours de cette émission des exemples de cette diversité des combats. On n'a pas l'ambition, évidemment, en une petite demi-heure de résumer toute l'histoire du féminisme. Mais commençons par l'actualité de cette semaine, marquée, je le disais, par le témoignage d'Adèle Haenel, actrice. C'était lundi à Mediapart. Elle accuse donc le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était adolescente.
Les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. C'est nos amis, c'est nos pères, c'est ça qu'on doit regarder. Et ça veut pas dire qu'on doit, comment dire, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer.
Voilà, très court extrait de ce témoignage d'Adèle Haenel, c'était en début de semaine, Camille Froide-Vaumétry. On a choisi cet extrait parce que, au-delà de son témoignage personnel, elle parle de la société, elle a un propos très politique justement.
Oui, ce qu'elle dit, j'ai retenu l'expression « les faire changer ». Elle parle évidemment de ce qu'elle a subi elle-même, mais l'immense apport de cette déclaration, c'est d'avoir permis de faire circuler, de rendre public cette idée très importante que les violences sexistes et sexuelles sont d'ordre systémique, c'est-à-dire qu'elles sont intimement liées à l'ordre patriarcal des choses, et que ce dont il s'agit, c'est évidemment de punir les auteurs de ces crimes et de ces agressions, mais c'est peut-être aussi et surtout les faire changer, comme elle dit, c'est-à-dire entamer enfin quelque chose qui permettrait de faire changer à la fois les mentalités, mais plus profondément encore, la façon dont notre société elle-même est organisée, c'est-à-dire cette hiérarchisation sexuée du monde que nous avons héritée depuis quasiment l'aube des temps.
Elle dit aussi qu'elle peut le faire aujourd'hui parce qu'elle est en situation de le faire, c'est-à-dire elle a une notoriété, elle a une position dans le cinéma qui n'est plus du tout celle de son agresseur, le réalisateur Christophe Ruggia. Est-ce qu'on pourrait dire, en élargissant peut-être un peu, que aujourd'hui les femmes sont davantage en situation de pouvoir justement porter ce genre de discours dans la société française ?
Je crois au contraire que son intervention démontre à peu près l'inverse. D'ailleurs, c'est ce qu'elle reconnaît elle-même. J'ai ma collègue Laure Bérény qui a produit une analyse tout à fait fine et intéressante de cette intervention en montrant combien les conditions sociales qui ont permis à Adèle Haenel de s'exprimer étaient, je la cite, extrêmement improbables. C'est-à-dire qu'il faut en effet que ce soit une femme qui est dans une position dans le monde du cinéma maintenant bien enracinée. Il faut que ce soit une femme blanche. Il faut que ce soit une femme qui correspond à un certain nombre de critères aussi esthétiques. Il faut par ailleurs qu'elle ait pu bénéficier d'une enquête journalistique d'une très grande qualité, comme ça a été le cas, etc. Bref, pour qu'Adèle Haenel ait pu ainsi parler aussi fort de cette question des violences sexuelles dans le cinéma, il fallait que soient réunies ces conditions que la plupart des femmes ne partagent pas. Et ce qu'elle met en lumière, disons de façon à contrario en quelque sorte, c'est toutes celles qui ne peuvent pas être entendues. D'ailleurs, elle l'a dit très explicitement, elle souhaitait parler au nom de celles qui ne peuvent pas être entendues.
Celles qui ne peuvent pas être entendues, elles sont d'ailleurs prises en charge actuellement dans la réflexion qui est celle du Grenelle des violences faites aux femmes, qui doit se terminer d'ici la fin de ce mois. Est-ce qu'il y a justement la nécessité, Camille Froide-Vaumétry, d'accompagner toujours ce combat par le politique, par de l'action politique pour que cela porte vraiment? Est-ce que là, c'est quand même le signe qu'il y a une prise de conscience peut-être de la part de la puissance publique qui a encore énormément de problèmes à régler dans ce domaine?
Oui, et si l'intervention du politique est absolument nécessaire et même urgente, c'est parce que, en dépit d'un certain nombre de dispositifs, notamment légaux, c'est-à-dire d'un certain nombre de lois qui punissent ces crimes et ces délits, on sait très bien, les chiffres le montrent, que les victimes de violences sexuelles se font très rarement rendre justice. En 2007,
c'est ce que dit Adèle Haenel, d'ailleurs, elle dit, voilà, moi je ne porte pas plainte parce que la justice n'accompagne pas suffisamment les victimes.
Voilà, on sait par exemple que en 2016, 73% des quelque 33 000 plaintes pour violences sexuelles ont été classées sans suite. Donc la décision, j'ai bien entendu Nicole Belloubet qui conseillait à Adèle Haenel d'aller porter plainte, mais comment trouver à la fois l'énergie et ne serait-ce même que l'envie de le faire quand on sait que seulement 18% des femmes se rendent dans un commissariat et que parmi elles, seulement 12% portent plainte et que parmi elles, seule une victime sur 10 voit son procès aboutir. Donc on est devant une situation juridique absolument inacceptable et c'est là que le politique intervient parce qu'il faut trouver les moyens de pallier en quelque sorte à ces déficiences de la justice.
Et trouver les moyens, ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par la loi?
Absolument, ça passe par la loi, ça passe par un certain nombre de mesures. Alors les groupes de travail du Grenelle ont émis un certain nombre de propositions dont on sait qu'elles sont effectivement probablement efficaces, comme par exemple d'améliorer l'accueil justement des victimes dans les commissariats et dans les palais de justice, de mieux faire fonctionner le système de plaintes, et pas seulement de plaintes, aussi de signalement par le 3919, etc. De permettre par exemple aussi aux professionnels de santé de signaler des situations de violence sans nécessairement avoir l'accord de la victime. Mais ce que j'observe aussi, c'est que toutes ces mesures sont, en quelque sorte, toutes des mesures, disons, a posteriori, c'est-à-dire qui sont là pour faire en sorte que les victimes puissent être mieux prises en charge. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est que je trouve depuis quelques mois, voire même quelques années, que d'un point de vue politique, on réfléchit à cette question des violences sexistes et sexuelles, c'est que très peu de choses sont proposées, pour ne pas dire à peu près rien, sur l'amont du problème, c'est-à-dire la formation, l'éducation des jeunes garçons. Et puis, des mesures, disons, encore plus, j'allais dire, structurelles pour essayer de faire changer les mentalités de façon beaucoup plus profonde. Je pense par exemple au fameux cours d'éducation sexuelle, dont on sait que chaque petit collégien ou lycéen doit recevoir 3 heures par an durant toute sa scolarité, mais que c'est à peine si ceux qui ont ces heures de cours sont bien chanceux. Et puis quand on voit comment ça se passe, enfin, une simple anecdote qui m'a laissée complètement sidérée. Ma fille qui est en quatrième, qui revient de ce fameux cours d'éducation sexuelle, dans lequel son professeur lui expliquait que les préservatifs féminins, c'était mieux que masculins, parce qu'on pouvait les mettre puis les oublier. Et puis quand je lui posais la question de savoir si son professeur lui avait parlé de désir, de plaisir, mais aussi de consentement, elle a fait une drôle de tête, elle m'a dit non, il m'a parlé de libido.
Alors on reviendra dans quelques minutes, Camille Froide-Vaumétry, sur ce combat actuel et comment est-ce que vous le caractérisez dans le livre que vous avez publié l'an dernier, Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Mais pour faire la généalogie du combat féministe, il faut commencer peut-être par la première bataille. Vous en identifiez 6, on n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais la première bataille, c'est la bataille du vote. Et il y a eu une des militantes, elles étaient nombreuses, mais acharnées dans cette bataille, la journaliste Louise Weiss, qui revendiquait le droit de voter et aussi le droit d'être élue d'ailleurs. Elle se présentait même symboliquement aux élections législatives en 1936.
Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays, dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend.
La bataille du vote, Camille Froide-Vaumetry, ça a été la mère de toutes les batailles du féminisme, ou en tout cas la première des grandes batailles.
Oui, c'était la première et celle qui était en quelque sorte l'étape fondatrice, puisque parmi les conséquences de la domination masculine à l'échelle de l'histoire, il y avait ce fait tout à fait scandaleux que les femmes ont été en quelque sorte exceptées, exclues, de la modernité démocratique, et que même par-delà le tournant moderne, nous étions arrivés au XXe siècle avec une situation totalement aberrante, où sur le papier les femmes étaient des hommes comme les autres, dotées des mêmes droits, de liberté et d'égalité, sans avoir le droit pour autant de participer à la vie publique et d'être des citoyennes comme les autres. Et alors en France singulièrement, cette situation a été particulièrement longue, hein, puisque comme vous le savez, c'est en 1944 seulement que les femmes ont obtenu le droit de vote, quasiment près d'un siècle après les hommes, et c'est d'ailleurs cette écart qui a été à l'origine même du féminisme, puisque en 1848, quand le suffrage universel, prétendument universel, est instauré en France, les femmes demeurent exceptées de ce droit, et c'est cette prise de conscience de ce que on avait supprimé toutes les conditions, j'allais dire, sociales et économiques d'accès au droit de vote, sans pour autant le conférer aux femmes, qui ont déclenché ce mouvement qui bientôt s'appellera, dans les dernières années du 19e, le féminisme.
Il va même y avoir une forme d'incongruité, puisque donc vous rappeliez, hein, le droit de vote, c'est 1944, première application, c'est l'année suivante, en 1945, mais en 1936, dans le Front Populaire, dans le gouvernement du Front Populaire, il y a 3 sous-secrétaires d'État, qui sont des femmes, Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacor et Cécile Brunschvicg. Louise Weiss, j'ai lu qu'on lui avait proposé d'intégrer le gouvernement, elle disait non, moi je veux pas être choisie, je veux pas être nommée, je veux être élue. Est-ce que la présence, en tout cas, des femmes à des postes de pouvoir, et notamment des postes de pouvoir politique, même là si c'était du sous-secrétariat d'État, ça a quand même contribué à faire avancer les revendications féministes, Camille Froide-Vaumetry?
Mais cette présence, elle est totalement anecdotique, et elle le restera anecdotique pendant des décennies. Nos gouvernements ne sont paritaires que depuis le quinquennat Hollande, donc c'est tout à fait récent. Et dans les décennies qui ont précédé, les femmes n'ont été que très rarement à des positions de pouvoir, que ce soit d'ailleurs pour le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Pendant des années, la France est restée à la traîne de tous les pays européens, et il a fallu les dernières élections pour qu'on puisse enfin franchir un cap relativement significatif pour des raisons, j'allais dire, un peu techniques. Donc oui, c'est important qu'il y ait des femmes au poste de pouvoir. On sait d'ailleurs que c'est à partir du niveau, disons, d'à peu près un tiers de présence que leur poids devient, j'allais dire, efficace. Pour autant, ce qu'il faut observer aussi, c'est comment, dans le fonctionnement même de la vie politique, les choses se passent. Parce que j'évoquais le fait que les gouvernements sont désormais paritaires. Je crois qu'il y aura, ça sera difficile de revenir en arrière. Quand on observe maintenant la composition, par exemple, des cabinets ministériels, ou alors à l'Assemblée, quand on observe la composition des commissions législatives en fonction des spécialités, on retrouve ces mécanismes, par exemple, d'assignation des femmes à des occupations, à des thématiques soi-disant féminines, et on retrouve aussi une forme de hiérarchisation très nette, qui fait que bien souvent, les femmes, même quand elles sont en position de pouvoir, ne sont pas, disons, dans une capacité pleine et entière de l'exercer.
Ce qui est surprenant quand on regarde la chronologie des batailles féministes, Camille Froide-Vaumetry, c'est qu'on constate que, alors entre le mouvement des suffragettes et puis le fait d'obtenir le droit de voter et d'être élu, et puis ce que vous mentionniez, c'est-à-dire cette parité dans les fonctions électives, il s'est quand même passé beaucoup de temps pendant lequel d'autres revendications d'une autre nature ont émergé, revendications que vous qualifiez de bataille de la procréation, c'est-à-dire le droit à disposer de son corps. Est-ce que ça veut dire que les batailles féministes, elles fonctionnent aussi par cycle ?
Elles fonctionnent de façon cumulative. Donc à partir de cette bataille mère qu'est la bataille du vote, qui fait des femmes des individus de droit comme les autres, et d'une certaine façon qui permet donc de parachever l'œuvre démocratique, à partir de celle-ci, eh bien il va s'agir pour les femmes d'investir de plus en plus conséquemment la sphère sociale. Et pour le faire, elles doivent, c'est la seconde étape, prendre le contrôle sur leur corps procréateur, de façon d'une certaine façon à se débarrasser de ce fardeau que constitue pour elles le fait que la maternité soit un destin et non pas un choix. Et donc la conquête des droits à la contraception et à l'avortement au début des années 70, c'est un tournant crucial. Moi je considère même que c'est de l'ordre de la mutation anthropologique, puisque pour la première fois dans l'histoire, les femmes sont en mesure de décider ou pas d'être mère, de choisir le moment de la maternité et donc d'investir la sphère sociale et professionnelle voilà, de la façon la plus intense possible, étant entendu bien sûr, et ça serait la bataille suivante d'ailleurs, que dans ce domaine-là de la vie professionnelle, les inégalités et les discriminations vont très longtemps perdurer.
Donc les droits politiques permettent de faire avancer les revendications pour disposer de son corps, et le fait de pouvoir davantage disposer de son corps permet de passer à l'étape suivante des droits politiques. C'est comme ça que ça fonctionne ?
Des droits sociaux et économiques ? Oui, un petit peu. C'est difficile d'établir un lien de causalité direct parce que la question, par exemple, du contrôle de la nature procréatrice, elle a été posée avant les années 70. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a effectivement des étapes qui sont en quelque sorte des points de passage obligés qui vont rendre possible un approfondissement de la lutte pour l'émancipation.
Difficile de parler de ces batailles du féminisme sans entendre celle qui en porta justement la cause devant le Parlement. C'était Simone Veil, court extrait d'une de ses interventions. Nous sommes le 26 novembre 1974.
Si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973.
Camille Froidevaux-Maîtré, on évoquait tout à l'heure l'importance de la loi pour faire passer les conquêtes féministes, que ce soit au niveau des droits sociaux, économiques et politiques, ou bien que ce soit sur les questions qui touchent au corps. C'est d'une même importance, c'est-à-dire que la dépénalisation de l'IVG, la contraception, aujourd'hui peut-être par exemple la PMA pour toutes, ce sont des avancées qui ne peuvent pas se passer du législatif.
Oui, parce que il faut la loi pour que l'ordre des choses tel qu'il a été construit à travers les siècles et tel qu'il s'est rigidifié puisse être ébranlé. C'est-à-dire que ce à quoi on s'attaque dans la lutte féministe, c'est non seulement un certain nombre d'inégalités et de discriminations, mais une fois encore, c'est un véritable système. Et ce système, on ne pourra l'ébranler que grâce à la force de la loi, d'une certaine façon, et au combat politique des féministes.
Il y a la loi suprême, qui est la Constitution, alors qui, elle, je ne sais pas de quelle manière vous considérez qu'elle l'ébranle ou pas cet équilibre ou ces déséquilibres, mais ça date de 1999, l'égalité qui est constitutionnalisée, l'article 1 de la Constitution de la 5e qui dit ceci, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. C'est de l'ordre du symbole ou ça va au-delà de ça pour vous ?
Cela s'est traduit par un certain nombre de mesures, notamment dans le champ politique. Je pense à la loi sur la parité, bien évidemment. Donc le fait d'inscrire dans la Constitution ce principe comme une sorte de socle fondateur, c'est sans doute très important symboliquement. Mais comme souvent, ce qui m'importe, c'est d'observer comment concrètement les principes se transforment en avancée et en évolution effective. Et de ce point de vue-là, ce qui frappe, c'est que notamment, là je reprends cette question du politique, en dépit de dispositifs assez sophistiqués, les choses ont été très 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 lentes à évoluer.
Par rapport à justement à cette évolution, et c'est l'objet de votre livre Le corps des femmes, Camille Froidevaux-Maîtré, vous écrivez notamment ceci pour caractériser aussi les différentes étapes de ces batailles féministes. La volonté des militantes de la deuxième vague d'affranchir les femmes du joug procréateur. Donc là, on est en plein dans la dépénalisation de l'avortement. Cette volonté leur a permis de devenir des individus presque comme les autres dans la sphère sociale et publique, mais elle ne les a pas débarrassés de l'assignation à la disponibilité privée. Comment est-ce que vous expliquez justement que ce combat-là n'est pas débouché sur une totale appropriation du propre corps des femmes ?
Oui, c'est une question vraiment, j'allais dire, mystérieuse. Je vous propose mon interprétation. Moi, j'ai le sentiment que la conquête des droits contraceptifs dans les années 70, qui a permis donc aux femmes d'investir la sphère sociale, a été suivie d'une forme de reflux sur cette question du corps, comme si les femmes devaient payer du prix de leur statut disponible, perpétué, leur émancipation sociale. C'est-à-dire qu'elles sont devenues des hommes comme les autres dans la sphère sociale, mais pour peu qu'elles acceptent de rester des femmes dans la sphère privée et intime. Et ce que j'ai observé, c'est qu'en dépit effectivement d'un premier élan dans les années 70 sur la question des droits contraceptifs, mais également, par exemple, sur le versant plus positif de la révolution sexuelle, en dépit de cet élan initial, cette aspiration corporelle, si je puis dire, a été un petit peu recouverte. Alors d'abord par les autres combats qu'on évoquait tout à l'heure, dans le monde du travail notamment, mais aussi sur la question de la famille, sur la question du genre, etc. Une fois encore, la chose est un peu paradoxale et mystérieuse, mais c'est ce qui explique, je crois, qu'aujourd'hui, on ait ce retour si intense à cette question du corps. Je pense sans doute que une autre étape était nécessaire avant qu'on puisse vraiment aller au bout de cette revendication corporelle, et ça a été la bataille du genre dans les années 90, c'est-à-dire la mise au jour de cette notion de genre qui désigne le fait que les individus grandissent dans une forme de socialisation sexuée qui, par un certain nombre d'apprentissages plus ou moins contraints, les enferme dans des rôles de genre stéréotypés, féminins ou masculins. Et une fois qu'on a pu penser cette assignation genrée, et donc commencer à la déconstruire, eh bien, on a pu reprendre le combat sur le terrain des corps, puisque précisément, s'il y a bien un lieu où les assignations genrées fonctionnent à plein, c'est celui des corps, et on a pu essayer de tirer la revendication émancipatrice jusque dans le plus intime des corps.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là d'ordre politique à obtenir des avancées dans ce terrain, puisque le corps, ça relève de l'intime, c'est le privé. Or, le politique n'est pas forcément censé s'immiscer de manière trop prononcée dans la sphère privée. Il y a aussi, on peut dire, dans l'histoire politique, des mouvements d'émancipation qui ont contribué à mettre l'État en dehors, justement, de la sphère privée. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire de légiférer sur quelque chose qui relève de l'intime, Camille Froide-Vaumétrie.
Mais si vous dites cela, Hervé Gardette, c'est que vous n'êtes pas féministe. Parce que
ah mince.
Le propre du féminisme, précisément, c'est de partir de ce postulat que le privé est politique. C'est un des slogans des années 70, et moi j'y ajouterais aujourd'hui l'intime est politique. Bien sûr que le corps est politique, puisque c'est par définition ce qui peut s'approprier, singulièrement le corps des femmes. C'est une des caractéristiques séculaires de l'existence des femmes, justement, que d'avoir été pensées comme des corps appropriables, des corps exploitables, des corps violentés, et ils relèvent donc du politique que de leur permettre de se réapproprier leur corps, parce qu'on n'est pas, on ne vit pas dans le monde comme de purs anthropes totalement désincarnés, et donc on ne peut pas se définir même comme individu de droit sans que la dimension incarnée de son existence soit intégrée dans cette sphère des droits.
Vous parlez du tournant génital du féminisme, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien c'est cette mobilisation très enthousiasmante d'une nouvelle génération de féministes depuis le tournant, moi je le repère, alors ça peut paraître précis, mais je crois que l'histoire nous le montrera, c'est à peu près ça, autour de 2015, c'est-à-dire qu'un certain nombre de sujets, non seulement corporels, mais plus encore que corporels, génitaux, ont été saisis par des jeunes féministes, ça a commencé par la question des règles, et puis on a vu éclore un certain nombre de combats, les violences gynécologiques et obstétricales, le combat aussi pour une meilleure représentation des organes génitaux, par exemple dans les manuels de SVT, on y revient, la question du plaisir des femmes et de la façon dont elles peuvent se le réapproprier elles aussi, et puis un certain nombre de, évidemment, l'énorme sujet des violences sexistes et sexuelles. Et ce que j'observe, c'est que toutes ces revendications étaient assez disséminées, émanant de petits groupes de féministes, pas forcément en lien les unes avec les autres, mais qu'ensemble, elles forment une nouvelle constellation de lutte, et c'est ce que j'appelle donc le tournant génital du féminisme. Et ce qu'il montre, c'est que ce domaine de l'intime était resté jusque-là, en quelque sorte, hors de la prise féministe, et que cette question du corps des femmes comme étant toujours soumis à la prise masculine n'avait pas été saisie, en fait, par les luttes féministes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Alors je reviens au lieu de la représentation politique, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, pour le système politique français, où les femmes sont mieux représentées qu'elles ne l'étaient autrefois, mais il y a encore pas mal de progrès à faire, ça dépend là aussi de la législation qui est en place, et elles sont souvent quand même ramenées à leur identité de femme. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et ce ne sont pas les exemples qui manquent.
Et en particulier donc à l'Assemblée nationale, où le sexisme ordinaire semble être une coutume tenace, même si c'est une tradition dont la démocratie se passerait bien. Deux exemples pour donner le ton. En pleine intervention en 2013, la députée écologiste Véronique Massonneau est interrompue par des caquettements venant des bancs de l'UMP. On écoute sa réaction.
Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait
Écoutez,
ça
enfin, franchement.
Arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon.
Et en 2012, c'est Cécile Duflot qui était victime de sifflets, apparemment provoqués par sa tenue vestimentaire. Elle portait ce jour-là une robe à fleurs.
Monsieur le Président.
Allez, écoutez.
Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement.
Et cette liste des vexations sexistes serait très longue. De fait, les femmes ont dû lutter pour s'imposer depuis leur entrée à l'Assemblée nationale au début de la 4e République. Une trentaine seulement y sont élues à cette époque. Un chiffre qui ira même en diminuant jusqu'aux années 1970. D'où ce commentaire de Simone Veil pendant son discours historique sur l'IVG en 1974.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
La ministre de la Santé qui avait essuyé quantité d'insultes sexistes à l'occasion de ce débat. Les choses évoluent pourtant à la fin des années 90 avec la parité qui entre dans la loi et même dans la Constitution. Mais un certain sexisme persiste à l'Assemblée, même s'il est plus insidieux. Par exemple, dans cette querelle sémantique entre le député UMP Julien Aubert et la présidente de séance Sandrine Mastier en 2014.
Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème.
Mais je respecte.
Donc c'est Madame la Présidente.
J'utilise les termes de l'Académie française.
Y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal.
Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président.
Et pour compléter le tableau, il faudrait préciser que ce sexisme des parlementaires ne touche pas que des élus de la nation. Il a cours aussi avec les assistantes parlementaires et les journalistes qui rendent compte des débats. En 2015, 40 d'entre elles s'insurgent dans une tribune contre les remarques quotidiennes qu'elles subissent. Les députés comme Éric Ciotti semblent gênés, mais ne réagissent pas vraiment.
Je n'ai pas perçu la pertinence de ce débat, mais si elle le dénonce et qu'il y a un fond de vérité, il faudra que ceux qui se sentent concernés en tiennent compte.
Voilà, on pourrait penser que ce sexisme appartiendrait à une génération, que les nouveaux députés élus par exemple en 2017 seraient au-dessus de ces comportements. Peine perdue, écoutez cet échange capté en janvier 2018 entre Yaël Braun-Pivet et le député LR Robin Reda.
Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit.
J'adore vos réflexions, fort misogynes, monsieur Reda.
Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère.
Ouf.
Voilà.
Je les connaissais pas.
Une précision, Robin Reda est âgé de 28 ans, il n'est pas forcément représentatif de la nouvelle génération d'élus, mais il démontre bien que la lutte contre le sexisme en politique demeure d'actualité.
Voilà, le ouf était signé Camille Freud-Vaumettré. Réaction alors justement à cette chronique.
Oui, deux petites choses. Je voudrais signaler l'existence d'une association de jeunes assistantes parlementaires qui font un super travail justement sur cette question du sexisme à l'Assemblée, qui s'appelle Cher Collaboratrice, Cher CHAIR. Et puis surtout, je voudrais dire que cette question du sexisme, elle est centrale. C'est l'un des deux bouts d'un même continuum qui va donc de la blague sexiste jusqu'au viol à l'autre bout de l'axe. Il s'agit en fait d'un continuum de violence, hein, et non pas simplement d'une différence de nature, mais vraiment simplement de deux. Et donc les actes et les blagues et les agissements sexistes, c'est en quelque sorte le terreau des violences sexuelles. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de violences sexistes et le mot n'est pas trop fort.
Je crois que vous aviez enquêté il y a quelques années de cela auprès de femmes politiques pour qu'elles vous racontent leur expérience du pouvoir. Quand on est une femme en politique, on est systématiquement renvoyé au fait qu'on est une femme.
Oui, on l'est quasi systématiquement, en politique comme à peu près dans tous les domaines de la vie professionnelle. Et ce que cela montre, une fois encore, c'est la nécessité de déplacer le point de vue du côté des hommes. Parce que on parle beaucoup de toutes ces affaires et on entend beaucoup les femmes en parler. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, parce que je crois que le temps est venu, et je pense d'ailleurs que le mouvement MeToo y est pour beaucoup, que l'on entende davantage les hommes qui sont interpellés par ces mouvements de revendication et qui acceptent de faire une forme d'autocritique ou en tout cas de réfléchir à leur propre rôle dans la perpétuation du système de domination masculine, que l'on les entende davantage et qu'ils prennent d'une certaine façon aussi leur part dans ce mouvement d'émancipation.
Ouais, il y a notamment le livre d'Yvan Jean Blonca, mais on peut dire que c'est l'exception peut-être qui confirme la règle. Merci beaucoup en tout cas Camille Freud-Vaumettré d'avoir participé à ce numéro de Politique. Je renvoie donc à votre dernier ouvrage aux éditions Philosophie Magazine, Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisé par Somanina avec à la prise de son Adèle Caglar, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi matin dans les matins de France Culture. Guillaume Erner sera en Ukraine pour interroger Oleg Sentsov. Je serai également présent à l'antenne à 12h45. La suite dans les idées de Sylvain Bourmeau et dans un instant le journal de 12h30.